Oui. Je ne comprends pas. Chez quel docteur? Elle n'est pas là. Quand? Mais pourquoi elle va tourner là-bas? C'est pas le docteur Winant, puisqu'il n'est pas là. C'est un homme. Et donc, ils sont là-bas. Elle n'a plus à tourner là-haut, elle se fera toujours piquer. Il l'adore. Bonjour chers amis, que Dieu vous bénisse. Je suis en retard, j'avais de la visite. Trois personnes. Et en plus, Marie-Hélène n'est pas bien, elle s'est fait piquer hier par des abeilles. On a dû aller aux urgences plusieurs heures. Et elle n'est pas encore complètement retapée. Aujourd'hui, elle ressort dans la nature, elle se fait repiquer, elle est de nouveau chez le médecin. Voilà, priez pour Marie-Hélène si vous voulez bien. Pour mon épouse, elle y est partie avec une de nos filles. Elle est particulièrement sensible aux piqûres, elle est devenue allergique quasiment, alors que avant, étant jeune, ce n'était pas le cas. Ça fait 3-4 ans. Voilà, donc nous allons continuer la réflexion. Merci pour les petits cœurs. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois loué. Pour tout tes bienfaits, pour ce soleil admirable, cette belle nature. Seigneur, donne de l'eau à tous les champs, à toutes les forêts, de temps en temps quelques pluies bienfaisantes. Seigneur, accorde à tous les paysans de te dire merci, d'être reconnaissants et de ne pas seulement travailler pour l'argent, pour le travail, pour l'idolâtrie du travail. Nous te prions aussi pour tous ceux qui, dans ce monde, te cherchent de plus en plus, Seigneur. Oui, je constate que des personnes ne comptent plus sur l'être humain et veulent autre chose. Je te prie d'éclairer tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Révèle-toi à eux. Sois béni. Que Jésus, ton Fils bien-aimé, se révèle au cœur des humains qui ont besoin de toi, mon Dieu. Père chéri, Amen. Bonjour Estelle, bonjour Kifa et bien d'autres. Alors, vous savez que je vous avais expliqué que au XIIe siècle, il y a eu les croisades et les croisades donc ont été des instruments d'invasion du Moyen-Orient, où on a massacré les chrétiens et les juifs et les musulmans. C'était des sauvages pour moi, qui portaient une croix. Eh bien, vous voyez, on a parlé de l'apparition du catholicisme depuis deux, trois fois. Eh bien, ce n'est pas la vérité chrétienne que de tels comportements et de telles actions politiques militaires. C'est sûr, c'est une grande offense à Dieu et bien sûr, c'est resté dans les livres d'histoire de l'islam pour dire les chrétiens, voilà, sont les ennemis de l'islam. C'est pas marrant parce que je ne pense pas que un vrai chrétien est l'ennemi des autres. Un vrai chrétien n'est pas l'ennemi des autres. Il a pour ennemi le péché. Point barre. Il a seulement un problème avec le péché, mais pas avec les humains. Un vrai chrétien. Alors, durant les croisades, on a fondé des grands ordres religieux, les Templiers, etc., qui avaient comme des casernes, des grands dortoirs, des grands établissements, et qui étaient super entraînés à la guerre. Ils avaient des murailles. Et dans la Jordanie actuelle, il y a vraiment toute une chaîne de forteresses, de fortifications, qui montrent la limite de l'empire, du royaume chrétien, d'Orient, qui avait été fondée par l'Occident. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que il y a eu un grand échec. Le chef des armées était un Français, et quand Saladin a déclaré une bataille, il est sorti avec ses chevaliers hors des murailles, hors des forteresses, et voulut livrer bataille en plaine, et c'est là qu'il s'est fait avoir. Et j'ai vu l'endroit où tous ces chevaliers ont été précipités du haut d'une montagne dans le vide. Acculés, acculés, à tomber dans le vide avec leurs chevaux et leurs armures. Le grand égarement de ce commandant de l'armée du royaume chrétien, de ce Français, s'était sorti de ses remparts. Saladin ne pouvait rien faire tant qu'ils étaient derrière leur lourde forteresse. Alors, rapidement, tout l'empire chrétien s'est écroulé. Au XIIIe siècle, c'était terminé, mais il est arrivé des modes nouvelles dans le catholicisme d'Occident. Et c'est pour ça que j'en parle. Par exemple, les musulmans avaient le chapelet, eh bien, les croisés ont ramené le chapelet. Et bien d'autres choses. Et le chapelet est arrivé tout près de Metz, à Yutz d'abord. Ce sont des anciens croisés revenus de Palestine à Yutz, qui ont répandu ce culte du chapelet. Ensuite, il y avait le Ramadan. Eh bien, on a inventé le carême. Eh oui. Et aujourd'hui, tout le monde dans le monde catholique pense que le carême, c'est quelque chose de chrétien depuis toujours. Eh non. Et puis, il y a eu des excès. En Flandre, vous avez des processions du Saint-Lait de la Vierge. Oui, ils ont ramené quelques gouttes du lait de la Vierge, qui sont dans des petits ciboires en verre, etc. Ils ont ramené des morceaux de la croix de Jésus, alors qu'elle était complètement pourrie, elle n'existait plus. Donc on a créé, si vous voulez, autour du lieu de Jérusalem et de tout ce qui s'était passé, on a créé toute une sorte de mythologie, de mensonges religieux, qui existe toujours, il y a des processions encore avec tout ça. Tout ça s'ajoute déjà aux autres égarements qui sont apparus au fur et à mesure des siècles. Vous imaginez? Le chapelet, le carême, etc. Et puis, comme l'islam avait son pèlerinage à la Mecque, eh bien, il fallait évidemment qu'on ait notre pèlerinage. Et c'était à Fatima. C'est invraisemblable, mais c'est comme ça. On est loin de l'évangile dans tout ça. On est dans la religion. Mais pourquoi les gens sont-ils tombés dans tout ça? Eh bien, il y a eu énormément de guerres effrayantes, hein, qui ont duré des dizaines d'années, parfois 100 ans, parfois 30 ans, il y a eu des guerres, et toujours accompagnées de famines, de désordres, de pillages, de viols, etc. Et donc les personnes vivaient dans une profonde culpabilité, une profonde désarroi, et avaient besoin, eh bien, je dirais, de réconfort, soit dans la vraie foi, soit dans la religion. Je vous ai dit que après est apparu Érasme, qui a contesté de manière radicale les abus du catholicisme. Et puis les réformateurs, Zwingli, Luther, Mélenchon, tous ont été ciblés et certains ont été brûlés. Et c'est surtout les Augustins, l'ordre des Augustins qui a souffert le plus, et l'ordre des Dominicains. On a fait passer des catholiques qui lisaient la Bible et qui annonçaient l'Évangile. On a fait passer sur les bûchers. Dans la région de Tournai, Attleuse, en Belgique, on a enterré des gens vivants avec la tête qui dépassait du sol. Dans le sud de la France, il faut bien se dire que plus tard, il y aura l'affaire des Huguenots, etc., du Luberon, de la Haute-Savoie, etc., et on va y venir. Donc, il y a eu, si vous voulez, une scission dans le monde catholique entre le nord et le sud. Le nord est devenu protestant, c'est-à-dire séparé complètement de Rome, ne payant plus la dîme aux évêques, aux archevêques et à Rome. et instaurant une nouvelle façon de vivre la foi, basée sur la Bible et sur la liberté de conscience, ce que dans le catholicisme n'existe pas a priori. On enseigne les enfants, on les baptise et ils doivent suivre le mouvement. Donc, le mouvement qui est donné par le catholicisme. Je vous ai dit que par rapport à ces réformateurs, l'Église catholique a tout doucement réagi en créant ce qu'on appelle des séminaires, des bâtiments très structurés, fermés, où les futurs prêtres étaient mis à part, les futurs religieux étaient mis à part des autres, avec un vêtement. C'est à ce moment-là qu'on peut appeler la contre-réforme. La contre-réforme a réellement isolé toute une partie de la jeunesse catholique et les a formatés pour qu'ils résistent à l'avenue de la Bible. Il y a eu dans les églises catholiques énormément de déficiences dans les prêtres, malgré tout, malgré qu'ils étaient formés. Et donc, de façon régionale, un peu partout, il y avait ce qu'on appelle le chapitre des chanoines. C'est-à-dire que dans certaines églises, dans le chœur, là où le prêtre disait la messe, il y avait à côté de lui, dans des stalles en bois, 10, 15, 8, 10 ou 30 prêtres intellectuels qui avaient été formés à lutter contre les idées bibliques, les idées des protestants, et qui encadraient, si vous voulez, tout un territoire, qui visitaient les prêtres, etc., et qui surveillaient les prêtres, surtout, pour en informer le Vatican. Donc, l'ordre des chanoines a été fait pour réconforter les prêtres, les surveiller, les encadrer. On a fait de belles églises avec de beaux autels baroques avec de l'or. On a créé de belles couleurs, des beaux dessins dans les plafonds, sur les murs. On a mis des orgues, c'est la période des orgues. On a attiré les humains par l'oreille et par la vue, plus que par la foi. Et les personnes ont rempli les églises de la contre-réforme, les églises catholiques. Que ce soit dans la Bavière allemande, ou que ce soit à travers toute l'Italie, toute la France, une partie de la Belgique, et en orthodoxie aussi. Il y a à cette époque-là, au moment de la contre-réforme, quelque chose d'horrible. C'est que dans le sud de la France, dans beaucoup de régions de la France, il y avait énormément de protestants. Il y avait des villes entières, des villages entiers avec des temples, etc., qui avaient le droit de se réunir et qui ont été progressivement massacrés, mis à part, mis aux galères, etc. Et dans la Haute-Savoie, Valdo, qui était un négociant de Lyon, qui s'était converti à l'Évangile, avait prêché l'Évangile dans la Haute-Savoie, dans toutes les vallées, les villages, et énormément d'assemblées évangéliques étaient apparues, qu'on appelle les Vaudois, du nom de Valdo. Il y a eu aussi des massacres là, évidemment. Les soldats du roi Louis XIV arrivaient la nuit, les massacraient, sauf ceux qui se doutaient qu'ils s'étaient retirés à temps, sont partis vers le Luberon, et 60 ans après, ont été massacrés par le comte de Provence. Et si vous voulez, on a chassé les chrétiens bibliques aussi durement qu'en Espagne, au Portugal, on a chassé les musulmans. On les a chassés aussi férocement. Tous les prédicateurs étaient suppliciés en public. Alors, on envoyait les hommes travailler dans les galères, on envoyait les femmes dans les abbayes, et les enfants dans des institutions pour faire un bon lavage de cerveau. Voilà, c'était très organisé, c'était une très grande souffrance pour les gens qui retournaient vers la Bible, vers le Seigneur de la Bible. Bien sûr, une grande partie de la population catholique, peut-être en souffrait, devait obéir, avait peur, et obéissait par contrainte. Quand j'ai vu cette période du Covid depuis 2, 3 ans où les gens ont peur et facilement s'inclinent, se soumettent, je me suis dit, on arriverait vite à des périodes où on remettrait les masses contre les chrétiens, les foules contre les chrétiens. On y arriverait vite parce que les gens ont peur et se soumettent facilement. Peut-être un temps va-t-il revenir où ce sera le cas. Alors, il y a eu évidemment des grands conflits avec la science, avec les intellectuels. Je vous donne le cas de Galilée. Galilée prétendait que la Terre était ronde sur base d'observations scientifiques. Les représentants de la papauté disaient non, la Terre est plate, etc. La Bible dit qu'elle est plate, elle n'est pas ronde, etc. Mais figurez-vous, quand on lit la Bible, moi j'ai déjà trouvé 5-6 passages où il est clairement expliqué que la Terre est ronde. Donc tous ces grands penseurs du Vatican ne lisaient pas la Bible. Depuis 1067, elle était interdite. Donc ils ont inventé eux-mêmes leur propre doctrine et leur fausse vérité. Et Galilée a été victime de gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, victime de gens, des imposteurs. Comme d'ailleurs Jésus a été victime des imposteurs qui ne connaissaient pas et ne vivaient pas la parole de Dieu. Alors, toutes les villes françaises, tous les temples ont finalement été réduits à néant. Et le monde catholique a subi la pression de Richelieu, de Mazarin, de Louis XIV et des jésuites. Que faut-il penser de l'ordre des jésuites? L'ordre des jésuites est fondé par un ancien militaire espagnol, Ignace de Loyola, ce mouvement a été créé pour contrecarrer tout ce qui s'opposait à la papauté. L'ordre des jésuites est très puissant aujourd'hui. Il a noyauté tous les évêchés et Rome. Et l'ordre des jésuites est toujours un ordre anti-protestant, anti-biblique. Même s'il a une façade bibliciste, attirée pour tromper. La population française, notamment, ayant tellement souffert des abus qu'elle a dû commettre elle-même contre les protestants, était dégoûtée de Dieu. Et quand la révolution est venue, les francs-maçons, les anti-dieux, ont proclamé la déesse raison dans cette cathédrale de Paris qui a brûlé. Ils ont proclamé la déesse raison. La divinité de la République, c'est la déesse raison. Elle a été proclamée, il y avait une femme qui était proclamée déesse raison. Et c'était cette église, cette grande cathédrale de Paris qui a brûlé il y a 2, 3 ans, était le lieu de cette consécration devant les autorités de la Révolution et devant des évêques, bien sûr, soumis. Avec la Révolution française, on refuse désormais que l'Église catholique prenne le pouvoir. On refuse que des ordres religieux deviennent puissants et possèdent beaucoup de terres, beaucoup d'argent et manipulent les foules. Avec la Révolution française, on refuse que les nobles, le clergé dirigent. Mais ce qu'il y a, la Révolution française a mis les bourgeois à la place. Et cet esprit anti-Dieu, qui est le fruit des abus du catholicisme. Cet esprit anti-Dieu est là, il y est peut-être pour longtemps en France. C'est l'esprit laïciste, c'est pas l'esprit laïque, c'est l'esprit laïciste. Pour d'autres qui ne sont pas bourgeois et francs-maçons et libres penseurs, la masse ouvrière qui venait des campagnes et qui s'est agglutinée autour des charbonnages, autour des hauts fourneaux, des laminoirs, etc., et qui est devenue la classe ouvrière, eh bien, pour cette grande masse qu'on appelle le prolétariat, elle a adopté les pensées de Marx. Marx, qui voulait une justice sur terre, abolir les riches, abolir les riches, abolir le pouvoir des riches par la guerre. la lutte des classes entre les classes sociales. Cette lutte des classes a été prêchée un peu partout. Et elle a gagné des millions et des millions de gens à sa cause. J'ai revu dans de vieux films, sur de vieilles photos, des défilés ouvriers en silence dans les régions de Lille, Tourcoing, Roubaix, où il y avait des milliers d'ouvriers qui marchaient en silence, d'une manière très religieuse, très ordonnée, et en avant, devant cette troupe qui avançait en silence, une grande photo était portée par deux, trois hommes de Karl Marx. De quoi faire peur à tous les riches, à tous les évêques, à tous les catholiques. Donc le monde catholique et le monde communiste se sont opposés. Comme le monde des révolutionnaires, le monde des libres penseurs, des laïcistes s'est opposé au monde catholique et le monde catholique s'est opposé. Et puis il y a eu les découvertes scientifiques, il y a eu un monde scientifique qui a été critiqué, combattu par l'Église catholique. L'Église catholique, en tout cas dans ses dirigeants, le percevait comme un grand danger. Et donc, il y a eu un conflit avec le monde scientifique. Et je vous dis tout cela parce qu'on a parlé du catholicisme. Le catholicisme a eu donc été trouvé confronté à beaucoup de choses et a initié beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits qui sont toujours durables en France et qui font souffrir le peuple de France. Et il y a bien sûr des catholiques sincères, honnêtes, pieux, qui ne connaissent rien de l'histoire ou à peine et qui n'en peuvent rien de ce qui s'est passé et qui cherchent Dieu et qui n'ont rien connu d'autre que le catholicisme, qui cherchent Dieu avec bon cœur. Comme il y a des protestants qui cherchent Dieu de bon cœur, comme il y a des musulmans qui cherchent Dieu de bon cœur. Dieu appelle partout à le rencontrer. Je vous ai dit que vers la fin du 19e siècle, quelque chose de grave s'est préparé. Plusieurs choses graves se sont préparées. Il y a eu ce qu'on appelle la Triple Entente et la Sainte Alliance. Donc, je ne sais pas si cette Triple Entente c'est la première, mais en tout cas, en 1868, même déjà peut-être avant, je n'ai plus les dates en mémoire exactement, la Prusse, l'Autriche, qui était un grand empire, et l'Italie se sont associés ensemble pour des raisons militaires et stratégiques et commerciales. Et 20 ans après, ou 30 ans après, vers les années 1880, la France, l'Angleterre et la Russie se sont associés. Une association porte le nom de Triple Entente, l'autre de Sainte Alliance. Tout cela montrait qu'il y avait un conflit latent, puissant, et qui a éclaté en 1914, et qui a fait donner la guerre de 14-18. Qui s'est répercuté, faute d'avoir eu un bon accord à Compiègne dans le train en 1918, faute d'avoir un bon accord où l'Allemagne avait perdu toutes ses colonies, avait perdu toute la Rhénanie et avait des dettes colossales, était extrêmement appauvrie, eh bien, faute d'avoir eu un bon accord, ce conflit a recommencé de 39 à 45. Que faut-il dire de tout cela? C'est que tous ces pays se disaient chrétiens, protestants, catholiques, et se sont battus entre eux. Comme aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie sont tous orthodoxes. N'est-ce pas? Comme autre part, en Syrie, en Irak, Daesh, État islamique, exécutait, tuait, violait des femmes musulmanes, des hommes musulmans. Il y a toujours des excès, partout, dans toutes les populations. Il y a toujours des œuvres d'iniquité et d'abomination dans toutes les populations, quelle que soit leur confession. Le péché dévore l'homme. Et donc, durant cette guerre de 14-18 et 40-45, les valeurs chrétiennes, catholiques, chez certains, protestants chez d'autres, humanistes chez d'autres, ont pris un coup dans l'aile. Plus d'un million de personnes ont été prisonniers en Allemagne pendant la guerre 14-18. Des millions étaient dans les tranchées en train de se battre et les femmes restaient seules à la maison avec leurs enfants. Et évidemment, ceux qui étaient prisonniers en Allemagne ne se sont pas toujours privés de rencontrer des femmes allemandes ou des soldats allemands de rencontrer des femmes françaises. Idem en 40-45. L'occupant allemand ne s'est pas privé de rencontrer certaines femmes trop sympathiques avec eux, et en Allemagne, des prisonniers trouvant des Allemandes fort sympathiques à leur égard. Quand tous ces gens sont revenus, ils avaient oublié tous les enseignements protestants et catholiques. Ce n'était plus qu'une étiquette. Leurs mœurs avaient été corrompues, les valeurs familiales, les valeurs de fidélité, la crainte de Dieu, enseignée par les églises, étaient disparues. Quand ces guerres ont été finies, il faut savoir que si on ne se repent pas, et si on ne demande pas dans la prédication de l'Évangile, on ne demande pas à être né de nouveau, si on ne cherche pas réellement ce que Jésus propose comme salut, on n'a pas quitté les vieux démons. Et c'est ce qui est arrivé après les deux guerres. Les vieux démons n'ont pas été rejetés parce que le Saint-Esprit n'est pas venu sur l'Occident. Et tous ceux qui ont généré des enfants après les deux guerres, eh bien, dans le cas de la guerre 14-18, tous ceux qui ont généré des enfants en ont fait des combattants pour la deuxième. Et pour la deuxième guerre, 40-45, 39-45, tous ceux qui ont généré des enfants ont engendré des enfants sous l'influence, non pas de l'Évangile, mais des démons, des esprits impurs, des esprits méchants, des lieux célestes, comme dit Paul. Et 20 ans après, en 68, cette génération se lève dans Paris et dit « il est interdit d'interdire ». La bataille des barricades, soutenue par les partis socialistes, ouvriers, etc., pour renverser la bourgeoisie, le vestige de la bourgeoisie catholique de Gaulle, tout cela a donné, pour l'heure d'aujourd'hui, une liberté absolue au niveau des mœurs, des pensées. On a inventé une nouvelle morale, chacun a sa vérité. Tout le monde a sa vérité, tout le monde y a droit. Tout le monde a droit à l'erreur. On n'appelle plus l'erreur un péché, et la vérité divine de l'Évangile n'a pas d'importance. C'est la vérité de chacun qui compte. C'est le fruit des esprits impurs et menteurs qui se sont installés avec ces guerres en Europe. Lorsque toutes les familles ont été déchirées, que tous les hommes et les femmes ont basculé dans la misère morale et spirituelle. Nous avons un héritage très lourd, très chargé. Nous avons besoin de retourner à l'Évangile. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de retrouver la parole du Seigneur Jésus. Alors, quelqu'un a eu le courage de vouloir retourner vers la parole de Dieu, c'est Jean 23, dans l'Église catholique. Il y a eu des mouvements évangéliques un peu partout dans le monde entier qui se sont développés après les guerres 14-18, 40-45, et qui ont tenu bon malgré toute l'opposition, et qui se sont développés. Le monde évangélique s'est développé. Mais de l'autre côté, avec Jean 23, il y avait 2500 évêques avec Jean 23 qui voulaient définir l'Église comme ceci, peuple de Dieu, en marche par la foi à la lumière de la parole. Premier épître de Pierre, chapitre 2. Premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Pardon. Vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le sang de Jésus à la croix, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu le pardon pour vos péchés, qui maintenant avez obtenu la miséricorde divine. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes actions, vos bons comportements, qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Nous voyons bien que dans cette épître, il y a quelque chose de formidable. Retrouver une identité. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Jésus-Christ, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Chers amis, où est le peuple de Dieu? En Europe, en Occident, au Canada, aux États-Unis. Où est-il? Avec ce vilain grabuge qui a été généré pendant des siècles et qui est tourné en conflit grave en 1914, 18, 40, 45. Ce grabuge, bien sûr, il y a plein de gens qui en souffrent aujourd'hui et qui cherchent Dieu. Vous êtes parmi ceux-là qui m'écoutez, mais beaucoup écoutent autre part, cherchent autre part. Il est clair que Dieu peut répondre à votre inquiétude, à votre besoin. Donnez votre vie à Jésus, parlez-lui, dans le secret de votre cœur, de votre chambre. Lisez ses paroles saintes dans l'Évangile. Je vous conseille de lire l'Évangile de Marc, il est court. Relisez-le deux, trois fois, puis allez dans l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Jean, l'Évangile de Luc. Recommencez. Alors, jusqu'au jour où, dans le calme, dans la paix, vous allez comprendre que Jésus vous demande de tout abandonner pour lui, c'est-à-dire de vous laisser conduire dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos décisions par lui, par sa sainteté, par sa vérité. C'est le dilemme que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas de choix autre maintenant, car ce monde se perd dans ses conflits, dans ses hostilités, dans ses égarements. Alors, que s'est-il passé après les guerres mondiales? Après l'échec de Vatican II, où Karol Wojtyla de Varsovie, avec 183 évêques, est arrivé à mettre à bout 2500 évêques et Jean 23. Après cet échec dans l'Église catholique, que beaucoup de catholiques ne connaissent même pas, c'est la loi du silence, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la politique s'est développée d'une manière bizarre. La guerre de l'Irak a amené l'ONU à créer ce qu'on appelle l'arrêté 665, le contrôle du Golfe Persique au mois d'août 1990. Porte-avions, bateaux américains, alliés sont toujours là. Ensuite, au mois de septembre 1990, le décret 666 de la Bible a été appliqué, qui est dans l'Apocalypse, a été appliqué à l'Irak. Plus de pièces de rechange, pas de médicaments, et d'autre part, pas de sortie de pétrole, donc pas d'argent. Le 30 novembre 1995, 42 pays à l'île de Crète signent ce qu'on appelle la Confédération méditerrano-européenne pour la paix et la prospérité de la région. Il crée un organisme qu'on retrouve toujours sur Internet qui s'appelle Babel, pour les langues de cette région autour de la Méditerranée. 3 jours après, les autorités politiques retirent le nom de Confédération méditerrano-européenne et vous pourrez trouver sur Internet recentrement de la politique européenne autour de la Méditerranée. Mais le nom a été retiré. Pour quelle raison? Parce que cette association de pays du 30 novembre 1995 est la réalisation d'une prophétie de Daniel chapitre 2, 6 siècles avant Jésus. L'Empire romain renaît pour une courte durée, très inique, très cruelle, injuste, composé de pays de pensées divergentes, d'intérêts opposés. Ce sont les pieds de la statue faits de bronze et d'argile. Comme c'était créé pour la paix et la prospérité, quelques temps après, la grande chute financière à New York est arrivée, comme c'était annoncé dans Thessaloniciens. Lorsqu'ils diront paix et sécurité et prospérité, alors une ruine soudaine viendra. Donc l'Évangile nous avertit. J'ai pris la carte de ces 42 pays et j'ai regardé sous Trajan, l'empereur romain de 113 à 116, l'Empire romain fait exactement la même configuration. Ce sont les mêmes limites politiques et géographiques que l'Empire romain de l'empereur Trajan. Donc c'est réellement l'Empire de Rome qui renaît pour une courte durée et nous voyons bien qu'il est caduc. Tous ces pays se combattent et se disputent. Qu'est-ce qui est encore arrivé? Eh bien, c'est que la Bible nous annonce dans Daniel et aussi dans l'Apocalypse qu'il y aura 10 royaumes et 7 rois. Eh bien, en 2009, ont été créés par les responsables politiques du monde 10 régions mondiales, 10 royaumes bioéthiques. J'ai vu cette carte, il est possible de la voir. Je peux en donner coordonnées si vous voulez sur Internet. Ces 10 royaumes bioéthiques, qu'est-ce qu'il s'agit de ça? C'est qu'on conduit le monde sur des questions de biologie, des questions de santé, des questions de climatologie. C'est avec cela qu'on les tient. Est-ce qu'on ne nous a pas tenus avec le Covid? Est-ce qu'on ne nous tient pas avec l'histoire de l'écologie et du climat? Les royaumes bioéthiques sont des royaumes de la peur, qui jouent sur le problème de la santé, de la stabilité du monde, en vue de soumettre, d'asservir les sujets de ces royaumes. Et ces 10 royaumes sont dirigés par 7 rois. Assez étonnant que la Bible parle de 7 rois alors qu'il y a 10 royaumes. Dans l'Apocalypse et dans Daniel, eh bien, c'est le groupe des G7, le groupe financier mondialiste super puissant qui mène la barque en tout. Maintenant, à la mi-novembre 2019, a été créé un accord entre la Chine, la Russie, la Turquie et l'Iran. Et cela correspond à Ézéchiel 38, l'Alliance du Nord qui attaquera Israël. Le lendemain que cette alliance a été signée entre les 4 pays, les avions sont passés sur le golfe Persique, les avions iraniens, russes, chinois, pour narguer la flotte américaine, la flotte des Alliés, qui n'ont pas renvoyé de missiles parce qu'ils étaient au courant de cette alliance extrêmement dangereuse qui pouvait provoquer un conflit mondial instantané. Mais 2 jours après, il y avait le Covid en Chine, en Russie et en Iran. Chose étrange, n'est-ce pas? Le cheval vert d'Apocalypse chapitre 6. Les maladies bactériologiques, chimiques, mortelles. Notre période est tout à fait propice au retour de Jésus-Christ. Dans les prophéties qui nous manquent un petit peu encore, qui ne sont pas exécutés, c'est l'accord entre les Palestiniens et les Juifs. Quand cet accord de paix est signé, même s'il est caduc très rapidement, Ézéchiel 38, l'invasion d'Israël par l'Iran, la Russie et la Turquie va se faire. Ézéchiel 38, lorsque cet accord sera fait. Comment cet accord peut-il être fait entre des juifs et des musulmans alors qu'il y a des minorités extrêmement hostiles, à la fois chez les musulmans et chez les juifs, en mettant les casques bleus, les soldats des nations à Jérusalem, dans Luc 21. Lorsque vous verrez les armées des nations à Jérusalem, alors le temps de la fin sera arrivé. Y a-t-il un autre signe également que les choses s'accélèrent, c'est qu'il y a des millions de juifs qui ont le Nouveau Testament, qui ont la Bible, avec le récit de Jésus, et qui s'intéressent à Jésus. Il y a énormément de juifs messianiques. Le figuier reverdit. Les promesses faites à Israël sont en train de s'accomplir. L'évangile s'est répandu à travers toutes les nations. Et finalement, l'évangile touche les juifs. Romains chapitre 11. L'appel de Dieu est irrévocable. Les dons sont irrévocables. Tout ce que Dieu a décidé s'accomplit. Est-ce que nous pouvons rêver ou désespérer? Dans un cas comme dans l'autre, nous ne sommes pas dans un sentiment. La parole de Dieu est une fondation pour notre vie. La parole de Dieu nous donne de la fermeté dans la foi. Elle nous donne des instruments pour comprendre les choses qui nous arrivent. La parole de Dieu est un rocher sur lequel on peut mettre ses pieds. Elle ne se base pas sur espérance ou désespérance, sur des états émotionnels. Elle se base sur une parole infaillible venue de Dieu à travers les prophètes, les apôtres et Jésus-Christ. Alors, chers amis, je vous souhaite d'être fidèle à la parole, de la lire. N'attendez pas. N'attendez plus. La fois prochaine, je pourrai encore converser sur tous ces sujets. J'ai énormément de citations bibliques, mais je pense que je mettrai plutôt dans un livre que de prolonger. La fois prochaine, si vous voulez bien, je vous parlerai, nous sommes vendredi, de Jean chapitre 12, verset 27. Et je vous lis déjà le texte de manière à ce que vous puissiez aller le lire et vous y intéresser. Jean 12, 27, à la fin du verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, donc de la croix, la mort à la croix. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour cela que je suis né sur la terre. C'est pour mourir sur la croix, pour racheter les âmes, par le prix de mon sacrifice. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, mais c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde, Satan, sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé, c'est-à-dire ressuscité et installé au ciel, donc ce qui est le cas, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus est donc là pour nous attirer à lui. Nous allons méditer ce texte vendredi. Soyez bénis et à bientôt.